cette année-là, il naît de Pologne.
Entre les jeunes, bon, ils ne pouvaient pas nous voir non plus. Hein. C'est le Polak qui nous appelait tout ça.
Mes parents, ils venaient du Nord, qu'on appelait les Camberlots.
Exactement. Mon pays, c'était Dentergem.
Il y a eu des Yougoslaves, des Serbes.
Surtout des Italiens.
Au début, je me suis ennuyée à mourir, madame.
Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
On marchait à genoux, on marchait à quatre pattes.
4 fois 5, 20, il fallait 20 mineurs.
Moi, je suis venue en 1930.
8000 ouvriers pour faire les minages de betteraves.
Travailler le nez bientôt collé au sol.
Non, vraiment, quand je pense à tout ça, je dis, c'est pas possible que j'ai fait tout ça. Je sais pas possible. J'ai 82 ans là. Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Moi, j'ai été ici un des tout premiers à avoir une arracheuse décolleteuse.
Puis on disait toujours, on voudrait bien s'acheter une petite maison.
Dans la série d'émissions intitulée « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien, émission construite à partir des interviews de ceux et de celles qui ont participé à l'évolution de la culture betteravière, RVM évoque la situation sociale et économique des pays d'origine des travailleurs étrangers et les raisons qui les amenèrent dans notre région. Dans cette émission, nous essaierons de comprendre quelle était la situation initiale des Belges et des Polonais.
L'image de nos interlocuteurs sur la situation économique et sociale de leur pays au moment de leur départ ou de celui de leurs parents se résume en une seule phrase. Ils étaient paysans, pratiquant une agriculture sommaire sur des terres exiguës qui ne leur permettaient pas de vivre. C'est pour cette raison qu'ils ont immigré. S'il est vrai que les ouvriers étrangers qui sont venus dans notre région étaient presque tous d'origine agricole, il semble bien que leur situation ne soit pas identique au départ. Essayons de retrouver ces différences en analysant les causes de quelques courants migratoires, en commençant par les Belges qui vinrent travailler en France dès le 19e siècle.
Vers 1896, en Seine-et-Marne, les fermes produisant des betteraves employèrent 8500 Belges, dont presque la moitié dans le Mulsien. En 1910, ils seront aussi 8000 dans l'Oise. Dès 1922, l'effectif des saisonniers belges se réduira progressivement, mais ils viendront régulièrement jusqu'à la fin des années 40.
Au départ, comme les gens du Nord, les Belges, ou plus précisément les Flamands, se définissaient d'abord comme tisserands, filant et tissant le lin à domicile tout l'hiver. Au printemps et en été, ils travaillaient la terre sur des surfaces minuscules, moins de 2 hectares. Ce n'est certainement pas le retard de l'agriculture flamande qui peut expliquer les migrations saisonnières, car elle était bien au contraire à la pointe du progrès. Ne dit-on pas que, malgré des sols médiocrement riches, la Flandre de l'Est fut la première en Europe à supprimer la jachère. Forçant la nature, elle fit porter aux sols rebelles des moissons plus abondantes que celles de riches territoires.
Les migrations des Frenchmen, ceux qui vont en France, seront induites et s'accéléreront sous l'impulsion de plusieurs facteurs. En premier lieu, la terre ne leur appartenait presque jamais et la très forte pression démographique. 300 habitants au kilomètre carré dans la plupart des communes, permettant aux propriétaires fonciers de fixer des taux de location extrêmement élevés. Les plus pauvres, qui ne produisaient pas assez de lin pour filer et tisser, devaient en plus acheter leurs matières premières. Ces raisons seront à l'origine des premiers départs pour faire les moissons en France afin de pouvoir acheter le lin nécessaire à leur activité de tisserand et payer la location de leurs terres.
La concurrence de l'industrie textile anglaise, qui fut la première à utiliser les métiers mécaniques, rendra leur situation dramatique. D'autant plus que ces innovations techniques seront introduites à leur tour en Flandre. Une seule alternative s'imposait alors aux tisserands à domicile. Soit rejoindre les manufactures textiles, soit résister pour un temps à la prolétarisation, en maintenant tant bien que mal leur métier à tisser. Dans ce second cas de figure, l'immigration saisonnière s'imposera à une masse croissante de travailleurs. Dans la même période, la culture des betteraves à sucre se développait rapidement en France. Par nécessité, mais aussi par tradition, ils reprirent toujours plus nombreux le chemin des grandes plaines du nord de la France.
Sans jamais atteindre l'ampleur des migrations d'avant la Première Guerre mondiale, L'habitude de venir en France pour faire des saisons s'est perpétuée, passant de 53 000 pour toute la France en 1910 à 20 000 environ en 1932. Un saisonnier belge se souvient de l'attachement de son père au travail saisonnier. Il viendra lui-même travailler en France dès 1942, en raffinerie, aux betteraves et pour arracher le lin.
Moi, je suis de... Exactement. Mon pays, c'était Dentergem. Ça se trouve à peu près au centre du triangle, Bruges, Gand, Courtrai. Moi, je suis là au milieu. Je suis à 20 km de Courtrai, je suis à 20 km de Bruges, je suis à peu près à 20 km de Gand. Alors, c'est-à-dire, c'est la frontière des Flandres occidentales, Flandres orientales. Ah, flamand, 100%. Ça se passait souvent entre amis, copains et famille. Mon père, il était tisserand, lui. Il était tisserand. Et puis alors aussi, c'est comme tout être humain, il avait entendu parler des saisonniers quand ils allaient en France. Et puis bon, bah, ils gagnaient de l'argent. Et puis il est venu faire les saisons comme beaucoup de Flamands, quoi. Parce que faut dire ce qui est, du travail il y en avait chez nous, faut pas croire qu'on venait parce qu'il n'y avait pas de travail.
De baas van den dop, je zei hem op ne keer, gedopt al 10 jaren, dat gaat toch niet meer. Hij zei, zoek voor mij toch maar niet naar een job, voor hetzelfde geld werken, dat is toch te zot. Zijn zotten die werken, zijn zotten die werken, je wordt er niet rijk van. Je wordt er zo muug van, zijn zotten die werken, zijn zotten die werken. Voor dat arme pensioen moet je het zeker niet doen.
On peut admettre que les Camberlots, saisonniers betteraviers originaires du nord de la France, devaient se sentir aussi très étrangers, tout en étant français, lorsqu'ils arrivaient dans les grandes plaines du bassin parisien. Il est intéressant de rappeler à quel point leur situation était proche de celle des saisonniers belges qui arrivaient en même temps qu'eux. Eux aussi exerçaient le métier de tisserand pendant l'hiver. Un géographe décrit leur situation.
Les Camberlots laissaient leurs ateliers humides, tristes et malsains pour le grand air et le plein soleil, pour un labeur acharné, penché de l'aube au soir sur le sillon, prenant à peine le temps de manger, attentif aux gains, sauvegarde de la morte saison.
C'est sans doute parce que les saisonniers arrivaient en mai et qu'il n'a jamais personnellement arraché de betteraves que ce géographe parle de plein soleil. Mais il relève par ailleurs une caractéristique importante concernant les migrants du Nord.
Contrairement aux Flamands, une partie des Camberlots partaient faire les saisons avec les membres de leur famille qui étaient aptes au travail. Les enfants en bas âge étaient confiés à des parents. N'oublions pas que les saisons duraient de mai à fin novembre et décembre. Tout comme les Flamands, la révolution industrielle dans le textile les contraindront à rejoindre les manufactures.
Les repères pour comprendre le long chemin de l'immigration polonaise ne sont pas seulement économiques, mais liés à l'histoire de la Pologne, divisée et occupée par les puissances étrangères pendant 2 siècles et demi.
Recruter des ouvriers polonais avant 1920 revient à faire appel tantôt à des citoyens allemands ou autrichiens, tantôt à des sujets du Tsar, les trois puissances qui s'étaient partagées la Pologne après la chute de Napoléon. La politique de type colonial menée tout au long du XIXe siècle par les puissances occupantes et une très forte natalité augmente la misère, surtout dans les campagnes, ce qui contraint les paysans à chercher du travail ailleurs. Les Allemands les y encouragent en ouvrant des bureaux de recrutement dans la région de Katowice au sud. Chaque printemps, un nombre croissant de jeunes Polonais, garçons et filles, quittent leur village. Ils vont à Saxe, c'est-à-dire en Saxe, dans les régions de grande culture betteravière, par équipe de 20 ou 40, les plus jeunes n'ayant que 13 ans. En 1907, ils seront plus de 350 000 à partir ainsi.
Mais à cette époque, les autorités allemandes pratiquent la germanisation à outrance dans les zones polonaises qu'elles contrôlent, surtout par l'obligation faite aux étrangers d'apprendre l'allemand. Ce sera cette mesure qui va déclencher un mouvement d'hostilité à la poursuite des migrations vers l'Allemagne. Dès 1907, des démarches sont faites par la Galicie au sud, dotée d'un peu plus de liberté, pour réorienter les migrations vers la France. En 1908, les premiers Polonais d'origine agricole arrivent en France, presque en même temps que les premiers mineurs polonais qui travaillaient en Westphalie et qui seront dirigés vers les mines du nord et de l'est de la France. Comme en Belgique, l'immigration a donc un long passé.
La Première Guerre mondiale sera une nouvelle source de souffrance pour les Polonais. Mais en 1919, le traité de Versailles leur permettra de retrouver une partie de leur territoire du sud. La Galicie, reprise aux Autrichiens, et une partie de la Haute-Silésie avec Katowice, rendue par les Allemands. La guerre arrêtera momentanément les départs vers la France, mais ils reprendront dès 1921, date à laquelle ils arrivent dans notre région. D'où venaient-ils ? Plusieurs ouvriers polonais le précisent.
Je suis polonais, d'origine polonaise. Beaucoup du coin dont je suis natif, c'est Kalisz, du côté de Kalisz, au nord de Łódź, une soixantaine de kilomètres au nord de Łódź. Mais il en venait de plusieurs régions. Il y avait des Polonais, des permanents du côté de Tarnów, Cracov, par là, en face de l'Ukraine. Mais oui, c'est surtout d'en bas, là, du côté de Cracovie et puis du côté de Kalisz.
Oh ben, non, 30. En 1930.
Jacobi, Tatjenstorova. Ah, Tatjenstorova, c'est la Sainte Vierge qui avait le nom, la Sainte...
La Vierge Noire.
La Vierge Noire, oui.
La région de Kalisz se situe au centre de la Pologne, dans ses frontières actuelles. Kharkov, Cracovie en français, Tarnów au sud-est, et Częstochowa, à 100 km au nord de Cracovie, c'est-à-dire presque au sud, vers la Tchécoslovaquie.
Słowa jak brzytwy, jak zgodów, jak zbitwy. O, wrócę, ja twój. Tam na płoniu błyszczy kwiecie, stoi ułan na migecie. A dziewczyna jak malina, wieści koszyk róż.
Les Polonais qui arriveront dans les fermes françaises sont tous d'origine paysanne, puisque seuls pouvaient venir comme salariés agricoles ceux qui travaillaient dans l'agriculture en Pologne. Mais pour quelles raisons venaient-ils en France ? Deux réponses concordantes nous sont données.
Les Polonais, je sais que c'était des gens qui avaient un lopin de terre, et puis bon, bah, et de toute façon, ils ne pouvaient pas en vivre, alors... quand ils restaient en Pologne, ils allaient travailler chez une exploitation plus importante parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre avec ce qu'ils avaient.
Une ouvrière agricole née en 1909 nous parle des années 20.
Mes parents, ils avaient un petit jardin et puis voilà, je ne me rappelle même pas combien déjà, un peu de terre quoi. Mais ils n'en avaient pas ni chevaux ni rien, c'est les voisins qui nous ont toujours labouré la terre, préparé, et nous qui on faisait que planter, semer. Et c'était des Allemands, parce que dans mon pays où j'étais, dans Yanov, là, il y avait beaucoup d'Allemands. Qui avaient beaucoup de terre, c'est les plus riches, c'est les Allemands. On travaillait beaucoup, c'est les Allemands, là, dans notre pays.
La situation héritée par la Nouvelle-Pologne en 1919 est en fait catastrophique. Dans la région de Cracovie, essentiellement rurale, la natalité est très élevée et sur 10 exploitations agricoles, 6 ont moins de 5 hectares et 4 moins de 2. Dans la région de Caliche, la situation est presque semblable. On compte 5 propriétés naines sur 10. Mais le surpeuplement est moins important car les Allemands, bien avant 1914, ont vidé le trop-plein des campagnes en favorisant des départs massifs vers le bassin houillé de Rhénanie-Westphalie. Ce n'est pas pour autant que ceux qui restaient pouvaient vivre sur des terres souvent pauvres avec des moyens techniques rudimentaires. De plus, à l'époque, de nombreux ouvriers agricoles bloqués pendant 4 ans de guerre en Allemagne rentrent au pays et veulent une place. Ce n'est pas l'industrie ravagée par la guerre, ni les villes surpeuplées qui peuvent leur offrir un débouché immédiat.
Dans ce contexte, l'éloignement momentané d'une partie de sa population est une question de survie pour la Pologne. Et le 3 septembre 1919, elle signe une convention avec la France pour l'organisation de migrations en direction de l'agriculture et des mines. Dès 1920, 3600 Polonais seront introduits pour effectuer des travaux agricoles en France et, en 1923, ils arriveront au nombre de 25 800. Les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, en 1926, emploieront chacun plus de 2000 ouvriers polonais, répartis surtout dans les exploitations de grandes cultures. Une partie de ces émigrants polonais resteront en France employés de façon permanente dans l'agriculture. D'autres, venus comme saisonniers, repartiront en Pologne après la saison et reviendront parfois plusieurs années de suite en France.
Ceux qui partaient et qui finalement resteront en France garderont longtemps l'espoir d'un retour et ils enverront leurs économies pendant des dizaines d'années à la famille restée en Pologne pour agrandir l'exploitation de quelques hectares ou pour la maintenir. Les sommes prélevées sur les salaires pour être envoyés en Pologne représentaient parfois jusqu'à la moitié des gains obtenus, ce qui veut dire que les dépenses de nourriture et d'habillement étaient aussi réduites que possible et qu'ils ne prenaient aucun plaisir. Mais ces envois étaient aussi l'occasion de maintenir la cohésion familiale en aidant les membres de la famille restés au pays.
Ces derniers, d'ailleurs, rendaient souvent compte de l'usage qui était fait de l'argent reçu, comme nous le montre le fragment d'une lettre écrite par le frère d'un migrant.
« Quant à l'argent, lorsque je l'aurai reçu, je donnerai 10 roubles à père et je garderai les 240 autres, ou bien je les déposerai quelque part jusqu'à ce que vous arriviez. J'ai vendu les bœufs et acheté une vache. Je voulais en acheter une seconde, mais l'occasion ne s'est pas présentée, car les vaches ne sont pas belles et elles sont chères. J'ai aussi vendu le cheval que vous aviez acheté pour 62 roubles et j'en ai acheté un autre pour 64. »
C'était « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien. Aujourd'hui, l'origine des travailleurs étrangers, le cas des Belges et des Polonais. Réalisation RVM.
Vous venez d'entendre un épisode de la série radiophonique « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois, une série de 15 émissions produites par RVM en 1994 et 1995.